Alors, je vous propose, j'ai gribouillé pendant toute la journée, sous votre contrôle, mesdames, messieurs, et puis vous, de faire une sorte de liste. Ce n'est pas du tout problématisé, comme on dirait à nos étudiants, mais une liste des choses qui ont été dites. Donc, vous levez la main, vous m'arrêtez, vous criez s'il y a des choses qui vous semblent excessives ou certainement simplifiées. Ce sont bien sûr les succès et les limites de la représentation LGBTQ avec la fonction du coming out qui fournit en règle générale un conflit extrêmement intéressant parce que c'est à la fois un intérêt narratif et un intérêt didactique. Et en ça, il y a une forme de normalisation, comme on nous l'a montré par exemple avec Will and Grace, si je ne me trompe pas. Et dans le même temps, il y a une critique queer sur une volonté assimilationniste, et c'était la première fois que j'entendais le terme, et je le trouve intéressant aujourd'hui, cette idée de assimilation. Je pense que c'est intéressant à garder. Et l'idée d'une normalisation subie par les LGBTQ. Alors, je ne sais pas si je garderai le mot subi, mais en tout cas, il a été prononcé, donc je crois que c'est intéressant de l'avoir en tête. Et ce, en dépit de développements fictionnels locaux, très, très audacieux, très particulier, comme les exemples catalans qu'on a eus, malgré ces ellipses narratives absolument extraordinaires, mais où l'aspect local et familier correspond justement à ces notions de série et pourquoi les séries nous plaisent tant, il me semble. Hein, c'est cette idée d'universalité, de familiarité et de local. Moi, je pars toujours de l'exemple de Plus belle la vie. Enfin, c'est d'une familiarité et d'un local absolument incroyable. La deuxième chose, c'est la fonction, alors ça c'est un terme peut-être un peu négatif, mais projective, ou en tout cas d'objet d'identification des personnages. Le rôle des héroïnes, et même si certains scénaristes ont du mal à les imaginer, ont du mal à les faire évoluer, sont gênés, voilà. Cet aspect, est-ce que Hugo Clément vient de nous dire avec la racialisation, ou en tout cas Buffy, qui m'a absolument impressionné, je veux dire. Je voulais jamais regarder la série, mais ça, c'est une série qu'il faut regarder. Mais en tout cas, cet aspect de négociation, donc à travers ces personnages, comment on les fait évoluer, entre les concepteurs et les audiences. Et je crois que cette idée de négociation, elle est très importante et elle rejoint sans doute ce que Jenkins a mis au point il y a maintenant quasiment 20 ans avec cette idée de la culture participative. Le point suivant, c'est l'importance des influences interculturelles. Comme le cas de Andrew Han, notre Coréen émigré aux États-Unis, et ça m'a fait penser parce qu'on dit, on parle toujours de soft power, de culture hégémonique. Bon, oui, sans doute, mais ça m'a fait penser à l'apport germanique ou en tout cas d'Europe continentale à Hollywood à l'époque classique. Et là, il se passe quelque chose avec Andrew Han que je trouve extrêmement intéressant parce que dans cette série télévisée, on ne sait plus très bien ce qui est asiatique, ce qui est américain. Il y a une sorte de blend, pardon, excusez-moi, de fusion que je trouve extrêmement intéressante. Et donc, ça nous conduit à reconfirmer ce qu'on disait au début, c'est l'importance de l'auteur. Vous avez vu la façon dont Andrew Han cadre ses sujets, hein, dans Spa Night, par exemple, que je n'ai pas vu, mais on a vu les images, avec les angles obliques, ce que Nick Davis a appelé les obstructed views, les vues obstruées. Hein. J'espère que vous aussi vous avez été frappé par cette capacité ou en tout cas cette volonté de l'auteur de changer les représentations classiques des personnages d'origine asiatique. Si on pense aux années 30 qui est ma période et où on voit les Japonais de service qui sont maîtres d'hôtel chez les riches des comédies de la 5e avenue, il y a un chemin absolument mais considérable qui a été accompli. Je vous recommande les figures des Japonais dans tous ces films-là, qui ouvrent la porte, c'est assez saisissant. Et puis, donc, il y a une autre façon, puisqu'on est sur la question de l'auteur, d'aborder cette importance de l'auteur avec le cas de Brian Fuller et d'un autre regard. Le gay gaze, hein, c'est bien ce qui a été employé après le male gaze de Laura Mulvey, et surtout apporté par une autre intervention, l'idée de la connivence avec le public. Même si le public est aussi peut-être instrumentalisé, hein. Et ça conduit aussi cette idée-là à la queerisation d'un contenu, hein. Comment est-ce qu'un contenu devient queer, comment est-ce qu'on le tire vers pour faire très simple, un refus de binarité homo-hétéro, enfin le refus de la binarité en tout cas. Et je trouve que c'est une époque aujourd'hui qui... Je parlais d'hybridation au début, mais là, c'est en essayant d'aller un pas plus loin, je trouve très intéressant la relecture queer ou camp de beaucoup de choses. Et à cet égard, un tout petit exemple, le Metropolitan Museum à New York va faire une grande exposition camp. Là, je crois, à la fin de l'année ou au début de l'année 2020. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au château de Versailles deux tableaux du XVIIe et dans lesquels il y a Louis XIV qui danse. Et c'est une figure de Louis XIV qui est... alors, comme j'étais un petit peu au courant de la chose, on m'a montré les photos, c'est extraordinaire. Hein. On a totalement explosé les notions de masculin, féminin, dedans, dehors, fort, faible. Enfin, il danse. Enfin, c'est très allégorique. Hein, voilà. Et on peut aimer ou ne pas aimer le camp ou une de ses versions, le kitsch, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce qui nous mène, je continue d'essayer de dépioter tout ce qui s'est dit, ou de déplier, comme on m'a dit récemment, ça nous mène, j'étais très impressionné, dépliez-moi s'il vous plaît, donc on va déplier le queer. Et à ce qui a été dit ce matin et qui a été répété d'une autre façon cet après-midi, notamment avec cette difficulté des scénaristes à... pas forcément à mettre le mot, mais à dépasser les catégories habituelles. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on ait l'angoisse de la feuille blanche, mais lesbienne plus black plus féministe, ça a l'air de poser un problème. Je prends ce schéma-là. Et c'est là où je trouve que le queer qui a vraiment été développé par Eve Sedgwick. Hein. Et Eve Sedgwick, c'est une littéraire. Elle a travaillé sur la littérature. Elle a appliqué ses théories à Henry James, par exemple. Hein. Donc, on dépasse totalement l'observation d'aujourd'hui sur des séries et la représentation LGBT. C'est cette explosion des catégories que je trouve très intéressante et qui, me semble-t-il, est au cœur de SenseSuite. D'après ce que j'ai entendu. Alors d'un côté, on a le refus des catégories parce que toutes les individualisations sont très très importantes. Et de l'autre, on a une autre vision, celle de Nick Davis, qui dit oui, mais justement, ça travaille contre le groupe, contre le mot qu'il a employé, je crois, c'est coalition. Hein. Alors je fais de la traduction littérale. Voilà. Donc je pense qu'on peut poser ça peut-être comme question à l'issue de cette journée. Et puis la dernière, parce que j'y suis extrêmement sensible, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille à travers le classicisme hollywoodien, par exemple, et puis que François Jost a beaucoup développé dans ses ouvrages sur les séries, c'est que tout ce qui a été présenté aujourd'hui, Hugo Clément a parlé d'émotion pour la racialisation, l'identification, il a beaucoup parlé de ses larmes, par exemple, c'était très, très... très émouvant et très illustrant, c'est quand même cette attente, je dirais pas désespérée, mais très très forte, d'intimité qui devient de la généralité, hein, et qui devient quelque chose d'universel, quelle que soit la forme d'intimité. On est, je pense, vraiment dans ce type de société aujourd'hui. D'où peut-être la racialisation, je sais pas. Et ça m'a fait penser, alors on refuse toujours à l'université en général de faire des stretches comme ça aussi importants, mais ça me fait toujours beaucoup penser au théâtre du 18e et à ce que Patrice Pavis a écrit sur l'espace dans les pièces de Marivaux, et où ce coming out, c'est quand même une affaire d'espace. C'est une affaire de conquête spatiale, donc sociale, de prise de pouvoir de l'espace. Et ça, c'est certainement très intéressant. Avant de conclure sur l'aspect technique, qui est très important aujourd'hui, la normalisation par les fans. Ça, c'est une chose extraordinaire. Hein. Si on reprend la définition de Hugo, normalisation comme être accepté par ou avec une pratique parmi d'autres. C'est bon ? Je n'ai pas fait d'erreur, très bien. Mais je ne sais pas, moi, quand je les ai vus se déguiser tous à San Diego, j'ai été horrifié. Et puis, surtout, les Dark Vador qui traînent. Bah. Et puis, petit à petit, on regarde ça et on se dit, bah oui, c'est cette réappropriation, c'est une diffusion. Voilà. Et la diffusion appartient aussi au public. Et la normalisation, là, les verbatims qui ont été montrés par tout le monde aujourd'hui, je trouve que c'est absolument essentiel. Mais la question quand même un petit peu inquiétante, et je terminerai par là, ça voudrait dire quand même que nos identités, nos vies, elle passerait aujourd'hui forcément par les médias, la médiatisation, les mythes contemporains pour devenir légitime. Et quelquefois, on a très envie de fermer le poste, je ne sais pas, et d'aller lire un livre. Alors, ce n'est pas forcément une façon très positive de... Mais bon, alors je sais bien que Jean-Paul Eskenazi a dit que le cinéma avait donné, le cinéma grand public avait donné au public une représentation qu'ils attendaient. Donc on est dans ce schéma-là, on n'en est pas sorti, mais c'est quand même donner beaucoup de son identité à d'autres. Et pour terminer, et ça me permet aussi de remercier encore Antoine et son équipe qui ont œuvré toute la journée. Aujourd'hui, c'était très important qu'on soit en transmission live et puis qu'on soit capté, parce que une collègue m'a dit c'est très bien que vous fassiez ça parce que on voit la recherche en train de se faire et de s'expérimenter. On tâtonne, on pose des questions, on se renvoie la balle. Voilà, c'est intéressant et je pense que vous ici ou ceux qui nous ont écoutés, ça a été une expérience assez intéressante et de voir que surtout l'université est très ouverte dans ses objets d'études sur des sujets extrêmement contemporains. Et que donc, et c'est pour terminer sur une note œcuménique, ce qu'on cherche, il faut le transmettre, et donc il nous faut des étudiants. Et donc tout va ensemble, on vous remercie d'être là. Et qu'on espère que cette journée vous aura apporté un éclairage à vous et à nous sur la question LGBTQ dans les séries. Donc on vous souhaite un bon week-end.